Matin, j'ai un thème dans le cœur qui m'a fait pleurer. Un thème dans le cœur qui est tellement important pour l'Église. Tellement important. C'est un thème que j'ai depuis maintenant plusieurs jours et pour lequel je me prépare parce que je ne sais pas par où commencer. Et ce matin, j'aimerais vous demander d'être attentif. Je ne dis pas que les autres dimanches, vous ne l'êtes pas, mais ce matin, je vous demande d'être plus attentif. Parce qu'il faut absolument que l'Église puisse entendre des choses. Et voilà, j'ai dû, pour ma part, les entendre. Et il faut maintenant les mettre en pratique. Et j'espère, et je prie de tout mon cœur pour que je puisse mettre ça en pratique. Et que ce que je vais vous annoncer ce matin, c'est une lutte qui est dure. C'est une lutte qui... et le quotidien du chrétien, mais qui forcément va être difficile dans certains moments, moins difficile dans d'autres. Mais si vous pratiquez ce que je vais vous annoncer ce matin, vous serez béni. Vous serez béni. Ce matin, je me suis levé très tôt. En préparant, en finissant de préparer ma prédication, en fignolant, j'aime bien mettre de la louange. J'aime bien, j'ai mon casque et j'écoute beaucoup de louanges. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je vais arrêter la louange et puis je vais mettre EMCI TV. Donc j'ai mis EMCI TV et est arrivé le moment où Yvan Castanou, pour ceux qui le connaissent, c'est un mec assez cinglant, d'accord. Quand il prêche, il ne vous le fait pas envoyer dire. Il le dit et il le dit et il le dit, voilà. Et en fait, ce matin, il a donné ma prédication. Quand Cassandre s'est levée, qu'elle est venue me voir dans mon bureau, elle a vu que j'étais perturbé, elle a vu que j'avais pris une masse là sur la tête et voilà. Alors, mon introduction est un peu longue, je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas l'objectif, mais ce matin, mon désir, c'est de vous prêcher, c'est de vous parler des voleurs du temple. Les voleurs du temple. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire des voleurs du temple? Vous répondez quand vous voulez. Quand je laisse des blancs à la fin d'une interrogation, c'est pour que vous répondiez. D'accord? Je sais que je demande beaucoup des amens dans mes prédications. La dernière fois que j'ai prêché, on m'a dit « Fred, tu demandes beaucoup trop de amens ». Mais vous avez entendu ce qu'a dit Josine ce matin? Quand on dit « Amen », c'est qu'on acquiesce. C'est qu'on dit « Oui, Jésus. Oui, Seigneur, j'accepte ça ». Et donc, dire un « Amen », ça ne va pas vous faire mal. Ça va être quelque chose qui va vous faire du bien au contraire. Parce que si le prédicateur vous dit une vérité qui est biblique, forcément, vous devez dire Amen. Les voleurs du temple, il faut savoir que ça a été repris dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et à chaque fois, les apôtres ont repris la même histoire. La même histoire de Jésus qui est arrivé dans Jérusalem, qui a été acclamé par la foule, mais qui a été critiqué par les pontes religieux. Et Jésus, il est arrivé dans le temple, et ce qu'il a fait, c'est que quand il est arrivé dans le temple, et Jean est bien plus profond dans cette histoire-là, puisqu'on nous dit que Jésus était vraiment en colère, et qu'il a pris un fouet pour chasser les chasseurs du temple. Donc Jésus est rentré dans le temple, et il a viré tous ceux qui faisaient du commerce dans le temple. Tous ceux qui faisaient du commerce, qui étaient là pour vendre du bétail, etc. Alors vous savez que le temple, à l'époque de Jésus, était un bâtiment immense, qui était divisé en trois grandes parties. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. D'accord? Les parvis, c'était pour le commun du mortel. C'est-à-dire qu'on venait faire nos offrandes à Dieu. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle qu'on était encore sous la loi, et la loi demandait des sacrifices d'animaux. Le lieu saint était pour les lévites. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait une gradation spirituelle qui permettait d'aller dans un endroit, dans le temple. Et le lieu très saint était simplement réservé à la présence de Dieu, et le grand sacrificateur, le principal des sacrificateurs, avait le droit de rentrer dans ce lieu très saint une fois par an. Et donc, dans les parvis, il y avait un commerce qui était là, et Jésus, il a vu que ce commerce était malsain. Alors, vous pouvez prendre tous les contextes historiques que vous souhaitez. Il faut savoir qu'à cette époque-là, tout ce pays qui est là-bas, la Judée, etc., c'était occupé par les Romains. Et donc, il y avait une monnaie qui arrivait, etc. Donc, certains historiens disent que c'est parce que la monnaie commençait à être changée, ou c'était de la monnaie grecque, de la monnaie romaine, etc. peu importe, on s'en fiche. Le principal, c'est que Jésus a chassé les chasseurs, pas les trafiquants, mais tous les commerçants dans le temple. Alors, je ne dis pas que dans l'église, il ne doit pas y avoir de commerce. Je n'ai pas dit ça. J'ai simplement dit que le commerce malsain, Dieu le voit. Et peut-être que certains d'entre vous voient déjà où je veux en venir. Mais déjà, on va le lire, ce passage. On va lire dans... J'ai pris celui de Matthieu, j'avais le choix entre les quatre évangiles. Donc Matthieu, au verset 21, au chapitre 21, pardon, à partir du verset 12, « Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Imaginez Jésus en colère. Il faut savoir que Jésus, pour moi, d'après l'image que je me fais de Jésus, c'était un homme qui avait une aura terrible. Il attirait les foules. Quand il rentrait quelque part, forcément les foules venaient vers lui. Et il avait cette aura qui était là et il avait une autorité naturelle sur lui. Normal, c'est le Fils de Dieu. C'était le Fils de Dieu, il était là sur terre en tant qu'homme et il arrivait avec cette autorité qu'il avait naturellement. Et quand il est arrivé, en plus de cette autorité spirituelle qu'il avait, il s'est mis en colère. Et dans sa colère, il a fait en sorte que le temple de Dieu puisse redevenir saint. Et c'est là, je pense, où la plupart d'entre vous voyez où je veux en venir. La sainteté du peuple de Dieu doit être la priorité de tous quotidiennement. Je vais la refaire. Non, attendez que je la refasse. La sainteté du corps de ou de l'Église, avec un grand E, doit être le quotidien du chrétien. Chaque jour, nous nous devons de dire non au péché. À chaque jour, on se doit d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et ce matin, peut-être que vous me regardez, vous pensez que je suis en colère. Je ne suis pas en colère. J'ai juste pris une balle de Kalachnikov en plein cœur. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que ma vie spirituelle est tellement faible par rapport à ce que Dieu veut pour moi. Et elle est tellement faible pour chacun d'entre nous. Et que Dieu veut absolument que dans notre temple, parce que je vous rappelle une chose, il est mis dans 1 Corinthiens, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qui n'est pas d'accord avec ça ? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut faire cohabiter un temple avec le Saint-Esprit dedans, avec la présence de Dieu, et garder en nous du péché? Comment? Parce que forcément, si on garde des péchés dans notre vie, on éloigne la présence de Dieu, parce que Dieu est saint. Et que Dieu, il est saint, et à partir du moment où il y a sa sainteté qui est en contact avec l'impureté, il s'en va. Il s'éloigne de nous. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu qui se laisse approcher. Et pour pouvoir approcher de Dieu, il faut que l'on rentre dans une sainteté de corps, d'esprit et d'âme. Et je n'ai pas bien parlé des trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit sont trois parties distinctes pour lesquelles nous devons être vigilants à tout moment de la journée ou de la nuit. Ça va ? Il y aura des moments un peu plus tendres dans ce que je vais dire. Ne vous inquiétez pas. Jean 2, 14 à 17. Wow. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il a même chassé le bétail. Il a chassé tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il souhaite, Jésus veut que nos temples soient des temples qui soient prêts à accueillir la présence de Dieu. Jésus veut que ce matin nous puissions être dignes d'être devant lui et que nous soyons dignes de nous approcher de lui. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que le zèle de Dieu vous dévore ce matin ? Non, dites pas « Amen » si ce n'est pas vrai. Dites-le si vraiment c'est vrai. Est-ce que le zèle de Dieu vous dévore ce matin ? Amen. J'ai pris une grosse résolution depuis le début de l'année. 2022, pour moi, est une année nouvelle. Et dernièrement, j'ai entendu des ministères dire « Tu sais, Fred, peut-être qu'on est appelé à des petites choses, parce qu'on voit des petites choses en France. » Ça m'a fait un mal de chien d'entendre ça. Je vous assure que j'étais prêt à partir. Parce que Jésus a dit que l'on ferait des choses plus grandes que ce que lui a fait. Alors si le Fils de Dieu dit qu'on est capable de faire des choses plus grandes que ce que lui a fait, n'allons pas confesser qu'on est prêt à faire des petites choses. Ne le dites pas. Ou ne venez pas me le dire parce que je vais me fâcher. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, la France est un pays difficile. Mais il y a des pays beaucoup plus difficiles. Beaucoup plus difficiles. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il se passe des choses glorieuses et de grandes choses dans ces pays qui sont nettement plus difficiles qu'en France. Juste pour votre information, allez voir sur le site de La Porte Ouverte qui a mis une vidéo sur la persécution des chrétiens qui a augmenté de 20% en 2021. Avec tout le classement des pays où le chrétien est persécuté. Je peux vous assurer qu'ici, on est confortable. Et qu'on est trop confortable. On est trop confortable parce qu'aujourd'hui, on se contente de ce que l'on a et qu'on est capable de confesser « Oh, tu sais, Fred, aujourd'hui, on est peut-être appelé à des petites choses. » Le zèle de Dieu, là, ça vient du grec, comme toute la Bible d'ailleurs, enfin, une partie de la Bible. Zélos, d'accord ? Il y a deux grandes parties au zèle. La première partie, c'est une ardeur, c'est une défense, c'est une ferveur, la férocité de l'indignation. Quand on a ce zèle de Dieu, on a cette indignation par rapport au monde. On est indigné. Je peux vous assurer, ça c'est moi, mais quand je vois le monde comme on marche actuellement, je ne peux pas comprendre que les chrétiens ne se lèvent pas. On se doit de se lever. Pas pour faire une révolte. C'est pas ça. Mais quand je vois même des chrétiens sur les réseaux sociaux qui critiquent les autorités, alors que Dieu dit bien qu'il faut prier pour les autorités, même s'ils font des choses qui ne sont pas conformes à ce que dit la Bible, il faut prier pour nos autorités. Et là, je vous engage, là, bientôt on a des élections qui arrivent, priez pour que le prochain président puisse être... qu'il nous laisse une porte ouverte. Prions pour nos autorités, soyons dans cette férocité de l'indignation, un zèle punitif. Voilà, c'est ça le zèle, c'est ça que Dieu veut dans nos cœurs, c'est ça que Dieu veut dans vos vies ce matin. Alors je suis peut-être un peu dur, oui. Je suis peut-être un peu dur. Et je suis désolé pour... Il y a peut-être des personnes qui sont là pour la deuxième, troisième fois qui viennent et qui se disent « Oh là, le mec sur l'estrade, il est un peu chaud. » Oui. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Dieu est un Dieu qui aime son peuple. Et on a trop galvaudé dans nos milieux le fait que Dieu est amour. Dieu est amour. Vous savez, le Dieu est amour. Oh oui, mais... Oui, mais on peut faire tel péché. De toute façon, Dieu est amour, il pardonne. Dieu, il est amour pour ceux qui le servent. Et c'est là où tu peux dire amen. Dieu n'est amour que pour ceux qui le servent. Il aime sa création, j'en doute absolument pas. Et il souhaite que chacun de ceux qui sont dans le monde puisse entendre parler de lui, puisse s'approcher de lui. Mais Dieu aime particulièrement ceux qui lui ont donné sa vie, qui le servent. Ceux qui cherchent cette pureté dans leur cœur, dans leur vie, partout, ceux qui cherchent réellement à lui être agréable, là, Dieu aime. Oui, Dieu aime. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord, je ne cherche pas le débat, ce n'est pas le but. Mais si, à la fin de ma prédication, je dis, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, lève ta main pour accepter Jésus. S'il y a des mains qui se lèvent, et ce sera une grande bénédiction. Et là, les anges se réjouissent dans le ciel quand il y a une main qui se lève. Mais le travail n'est pas fini. À partir du moment où une main se lève, c'est un premier engagement pour Dieu. Après, il y a tout un travail. Parce que je vous rappelle, on en a parlé avec Thierry lundi, on n'est pas là pour faire des chrétiens. On est là pour faire des disciples. Et c'est quoi la discipline de Dieu? C'est quoi la discipline de Dieu? Wow. La deuxième... Vous voyez, zèle, ça va dans les deux sens. Il y a une jalousie, une rivalité sérieuse. On a un Dieu qui est jaloux. Et si tu laisses entrer le monde dans ta vie, Dieu sera jaloux. Et forcément, il s'éloignera de toi. Son amour, je ne vais pas dire qu'il va baisser, on ne peut pas dire ça. Parce que Dieu est amour. Il ne donne pas de l'amour, il est amour. D'accord? Dieu n'amène pas la sainteté, il est saint. Il faut qu'on considère Dieu comme un grand Dieu. Il faut arrêter de considérer Dieu comme un petit Dieu. Parce que vos petits dieux qui sont dans votre vie, il faut absolument les détruire. Je vous parlais tout à l'heure de cette résolution. Ouais. Que j'ai pris en 2022, je me suis rendu compte que je ne passais pas assez de temps avec mon Dieu. Je passe du temps, oui, vous savez, c'est Smith-Migglesworth, c'est toujours difficile à dire ça, qui disait, je prie jamais plus d'une heure, mais je ne passe pas plus d'une heure sans prier. Ça va, je la refais. Ne me demandez pas de la refaire, elle est dure à faire, celle-là. Je ne prie jamais plus d'une heure, mais je ne passe jamais plus d'une heure sans prier. Et j'essaye de faire ça dans mon quotidien. J'essaye de toujours être avec une pensée vers Jésus, etc. Mais là, j'ai décidé réellement de pouvoir passer du temps avec mon Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, en début d'année, j'ai dit, Seigneur, voilà, je me suis couché, j'ai dit ce matin, demain matin, Seigneur, s'il te plaît, réveille-moi. Je ne veux pas de réveil, réveille-moi. Et vous savez quoi, à 6h13, mon réveil n'a pas sonné, mais mes yeux se sont ouverts. Sans que je mette de réveil. Et tous les soirs, quand je prie, je dis, Seigneur, réveille-moi demain matin. Et Dieu me réveille le lendemain matin, et de plus en plus tôt. De plus en plus tôt. Ce matin, mes yeux se sont ouverts à 5h. Et j'ai passé donc 3 heures avec mon Dieu. Et à partir de ce moment-là, quand on commence à passer du temps et qu'on recherche la présence de Dieu, je ne dis pas ça pour me gargariser, ce n'est pas de l'orgueil ce que je suis en train de vous dire. C'est que même moi, je veux dire même moi dans le sens, un ministère, vous pourriez très bien critiquer en disant « Mais attends, le mec, il est pasteur. » Et voilà. Oui, je ne passe pas assez de temps avec mon Dieu. Alors attention, je ne vais pas dire que je vais arrêter de travailler parce qu'il faut absolument que je passe toute ma journée avec Dieu, parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça. On en parlait hier avec mes enfants. Je dis voilà, il y a des chrétiens qui aujourd'hui vivent avec la tête dans les nuages. Oui, le retour de Jésus, oui, je prie pour le réveil, mais ils n'ont plus les pieds sur terre. Ils ne pensent qu'à des choses qui sont, pour moi, pas importantes. Le retour de Jésus, oui, il faut en parler parce qu'on sait tous que Jésus va bientôt revenir. On le sait tous. Le monde sait que Jésus va bientôt revenir. Ils le savent. Et le diable sait que Jésus va bientôt revenir. Parce qu'en ce moment, il est en train de s'énerver. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il est en train de s'énerver. N'ayons pas que la tête dans les nuages. Gardons aussi les pieds sur terre. Gardons les pieds sur terre à se dire, moi, je continue à chercher mon Dieu. Je continue à rentrer dans sa présence. Je continue parce que Dieu a forcément des bénédictions pour moi. Il a quelque chose pour moi. Il a un appel pour moi. Il a quelque chose de glorieux pour moi. Là, j'ai eu un seul amen. J'aurais pu en avoir des dizaines. Le zèle. Matthieu 25, 1 à 6. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles. Vous voyez où je vais là ? Je vais vous parler des 10 vierges. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire des 10 vierges dans la Bible ? Non ? Eh bien, tu vas l'apprendre. L'histoire des 10 vierges, je vais vous la lire. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles. Alors, on dit jeunes filles, il y a d'autres versions qui disent vierges. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu vulgaire de dire vierge. Qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Ou alors, c'était que les riches qui avaient l'électricité à l'époque de Jésus. Mais ils avaient des lampes à huile, d'accord? Vous pouvez avoir la lampe sans huile ne sert à rien, l'huile sans lampe, ça sert un petit peu plus, mais moins bien aussi, d'accord? Comme le marié tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent, au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Là, on est bien d'accord que c'est une image qui nous dit que dans le milieu chrétien, oh là, je l'ai dit, dans le milieu chrétien, il y a 2 grandes familles. Il y a ceux qui ont de l'huile pour leur lampe et il y a ceux qui n'ont pas d'huile pour leur lampe. Et il y a forcément un jour le marié qui va rentrer et qui va revenir, qui va venir chercher son épouse. La Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. D'accord ? Et donc si on a un époux qui est saint, qui est parfait, est-ce que vous croyez que l'époux va venir chercher une épouse qui est souillée, sale ? Et donc, on se doit chacun de pouvoir rentrer dans le corps de Christ en étant pur et en étant devant Dieu sans tache ni ride. Alors oui, la Bible dit que quand on donne sa vie à Jésus, il prend nos péchés, qu'il les envoie dans l'océan le plus profond qui soit. Oui, mais on parle bien d'une course de fond après, ça je le dirai à chaque fois, on parle bien d'une course de fond. Dieu nous demande de toujours être près de lui et de ne laisser l'entrée à rien d'impur dans nos vies. Vous savez, quand je vois un petit peu même, je regarde la télé, hein, je ne vous cache pas, je regarde la télé, hein, mais c'est vrai qu'on voit tellement de choses à la télé, tellement de choses. Et le monde encourage à faire des choses qui sont contre ce que Dieu préconise. Et qu'aujourd'hui, si vous allez confesser des choses bibliques dans la rue, vous pouvez être mis en prison. Pourquoi ? Parce que vous dites des choses vraies et que le monde refuse aujourd'hui les choses vraies. Je ne vais pas citer d'exemple. On les a tous en tête, les exemples. D'accord ? Si vous avez besoin d'exemples, venez me voir à la fin, je vais vous en donner plein. Et aujourd'hui, même dans nos milieux chrétiens, on accepte le péché. On accepte le péché. Et c'est là où je vais être le plus dur dans ma prédication. Si demain, tu pars et que tu acceptes le péché dans ta vie, que tu as pratiqué ton péché, ne crois pas que parce qu'un jour tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas directement au paradis. Ne le crois pas, ça. Je peux vous certifier aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui vont aller en enfer. C'est dur ce que je viens de dire. Hein. C'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant. Il faut absolument que nous soyons tous vigilants. Il faut qu'on accepte des fois, quand on a un péché dans notre vie, qu'on ait un frère qui vient nous reprendre pour nous dire « Je vois que dans ta vie, il y a ça. Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux t'aider ?» C'est ça le corps de Christ. C'est ça l'épouse de Christ. C'est de pouvoir dire à son frère ou à sa sœur « T'as besoin d'aide? Je suis là. » Et vice-versa aussi. « Quand j'ai besoin d'aide, tu es là pour moi. » Je vais finir par tomber avec ce tapis. Et donc, je continue mon histoire. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent. Et en fait, ce que je viens de dire, ouais, parce que je suis toujours dans cette histoire des vierges, là, des jeunes filles, d'accord ? Mais clairement, ce que je viens de vous dire, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Regardez, on va continuer l'histoire. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent. On parle bien de 10 jeunes filles qui attendent l'époux, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à attendre l'époux. C'est-à-dire qu'au moment où elles attendent, il fait jour. C'est-à-dire que là, elles sont contentes, elles sont toutes joyeuses. Et un jour, parce qu'on nous dit que le retour de Jésus va arriver comme un voleur et que personne ne connaît ni l'heure ni le jour de la venue de Jésus-Christ, et que ce jour-là, si tu n'es pas prêt, Jésus te fermera la porte. Au pif. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Regardez, quand on nous dit, « Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Est-ce que dans l'Apocalypse, il n'est pas noté que les tièdes, Dieu les vomirait de sa bouche ? À partir du moment où on a une lampe qui s'éteint, spirituellement parlant, j'entends, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on devient des tièdes ? Et donc, on finit avec ce passage. C'est pas celui-là, comme j'ai passé. Pendant qu'elles allaient en acheter, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La porte fut fermée. L'époux a pris son épouse, il est parti avec, il a fermé la porte. Ça veut dire que tous ceux qui sont dehors, c'est fini. Il n'y aura pas de purgatoire. Celle qui était prête à entrer avec lui dans la salle des noces, elle fut fermée. 11. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Donc, voyez, vous pouvez dire, Frédéric, t'es cruel ce matin. Fred, t'es dur là. C'est pas moi qui suis dur. Hein. Je vous dis juste la vérité. Hein. En tant que ministère de Dieu, je me dois de vous dire la vérité. Parce que j'ai une plus grande responsabilité en étant ici sur l'estrade. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai souffert avec ce sujet ? Est-ce que ça va ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce qu'il y en a qui souffrent de ce que je suis en train de dire ? Les voleurs du temple. Et croyez-moi, hein, les voleurs du temple, il ne suffit de pas grand-chose hein, pour être un voleur dans le temple. Hein. Une petite pensée, une critique. Et bien d'autres détails. Hein. Le temps que vous passez à faire autre chose que d'être dans la présence de Dieu, ou des fois des choses qui ne sont pas bonnes. On est des voleurs de temple. On est des pilleurs de temple. Dans certaines pratiques que l'on a aujourd'hui, demandons à Dieu de nous donner le discernement. Ça, c'est une de mes prières. Chaque matin, je dis, Seigneur, développe en moi le discernement. Il faut absolument que j'aie plus de discernement. Parce que déjà, en tant que pasteur, il faut qu'on ait du discernement. Mais en tant que chrétien, il faut qu'on ait du discernement. Il faut qu'on ait du discernement. Il faut que l'on puisse rentrer dans les dons. Dans les dons. Vous savez les dons ? Vous le connaissez, hein ? Vous savez, hein ? Il y a du discernement, il y a la sagesse, il y a les paroles de connaissance, il y a la prophétie. D'accord ? Il y a la foi, il y a tout ça, tous les dons que Dieu veut mettre à ta disposition pour pouvoir œuvrer. Mais pour ça, il faut qu'on puisse avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Une intimité avec le Saint-Esprit. C'est pas le tout d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Oh, je parle en langue, shabababababa, alors ça, on aime bien le faire. Luc 13, 24. Seigneur. J'ai mal hein, ce matin. Ça fait mal. Hein. Mon but, c'est pas de vous choquer. Hein. C'est que vous passez un bon dimanche. Hein. C'est là où vous pouvez dire, ouais, Fred, merci, c'est gagné. Croyez-moi, je suis en train, pour ceux qui entendent mon prêche ce matin, ma prédication, si vous l'entendez et que vous mettez en pratique, je viens de vous sauver la vie et je viens de vous sauver votre éternité. Luc 13, 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ça, c'est quasiment, je vais quasiment dire la suite de ce qu'on vient de lire avec les vierges, les jeunes filles, je vais arrêter de dire vierges, quand on a des habitudes de langage, hein, c'est terrible. Hein. Les jeunes filles. Vous savez pourquoi j'ai mis un astérisque à forcer ? Astérisme. Parce que ça vient là aussi du grec, agonizomai. Et qu'est-ce que vous entendez dans agonizomai ? Vous entendez quoi ? Agonie, c'est la même racine. Soyez dans l'agonie de rechercher, de vouloir entrer par la porte étroite. Soyez dans cette douleur-là de dire, Seigneur, il faut absolument, absolument que quand tu reviens, quand tu vas revenir, que je puisse être pur et que tu puisses me regarder droit dans les yeux et me dire, viens, bon et fidèle serviteur, rentre, rentre, vas-y, rentre, tu fais partie de mon épouse, je t'aime. S'efforcer d'avoir un zèle extrême. Agonizomai, c'est ça. S'efforcer d'avoir un zèle extrême. Efforcez-vous, ça veut dire ayez un zèle extrême pour Dieu. Ayez un zèle extrême pour Dieu. Waouh. Waouh. Vous savez, avant de passer peut-être à ce passage, je voudrais faire une expérience avec vous. Je l'ai préparée. Cassandre, tu peux, s'il te plaît ? Nicolas, tu peux m'apporter la petite table là-bas, s'il te plaît ? Merci, Loulou. Oui, j'appelle mon fils Loulou. Désolé. Hein. Regardez, je vais me mettre sur le... Non, c'est pas ça. Une bassine. Ça va, tout le monde sait ce que c'est qu'une bassine ? Regardez, un pigeon, non. un verre, du jus de fruits, eau, un pichet. Un pichet. Bon. Vous savez, quand dans Corinthiens, on nous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. À partir du moment où, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu acquiers c'est combien de sens qu'on a? C'est 5? 5 sens? C'est pas 6, hein, c'est 5. On acquiert un sixième sens. Le sixième sens, c'est qu'on devient le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Et à partir du moment où on a eu un vécu sans Dieu, notre temple qui est là, d'accord, était rempli de choses pas bien. D'accord ? Ce qu'on appelle le péché. Vous voyez, j'ai la tremblote. Ça, c'est pas parce que je suis stressé, c'est parce que je tremble toujours. D'accord ? Là, je ne l'ai pas rempli. Hein. Mais vous savez, le péché, il est là dans notre cœur et on vit avec. Et il est même sympa à vivre. Alors, qu'est-ce que c'est bon, le péché ? Alors, c'est bon. Non, je vous assure. C'est bien. Hein. Ça, c'est ce que le monde veut que vous croyez. C'est que votre péché, il est bon. Et donc, forcément, bah, quand on vit avec ça, on a pris l'habitude de vivre avec notre péché. Quand on n'est pas chrétien, quand on n'est pas à Dieu, bah, forcément, on vit avec et on le pratique, notre péché, on le goûte, il nous goûte bon. Ça fait du bien de boire un coup, d'ailleurs. Mais arrive le moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Crois-moi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie. Et dans ton éternité, d'ailleurs. Meilleure chose. Vous savez, hein, je le dis, hein, souvent, mais... aujourd'hui, la moyenne de vie d'un homme, je crois que c'est 78 ans, la moyenne d'âge d'un homme. La femme, c'est un petit peu plus, c'est normal, elle travaille beaucoup moins que l'homme. Donc, c'est normal, d'accord ? Je plaisante, hein, d'accord ? Il n'y a aucune misogynie dans ce que je viens de dire, je plaisante. C'était pour détendre l'atmosphère, parce que là, tout ce que je viens de vous balancer sur la tête, là, il faut que maintenant vous cuviez, d'accord ? Voilà. Et... Si aujourd'hui Dieu me donne vie jusqu'à 78 ans, j'espère qu'il sera rentré d'ici là, qu'il sera venu me chercher d'ici là. Enfin, bon, bref, j'en sais rien. Mais j'ai 78 ans de l'âge de pleine conscience, comme dit la Bible. À partir du moment où on a cette conscience, on prend conscience de ce que l'on est, c'est-à-dire vers 8-10 ans à peu près, hein, en moyenne, ça dépend des enfants. Ça veut dire qu'il me reste à peu près 70 ans pour donner ma vie à Jésus et préparer mon éternité. Parce qu'une fois que je suis dans l'éternité, c'est long. Et si je suis du mauvais côté, c'est d'autant plus long. Vous savez, Coluche qui disait, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. D'accord ? Et donc, arrive le moment où tu vas donner ta vie à Jésus. Et donc, eh ben, ton récipient, le fait que tu sois le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va venir dans ton cœur et il va commencer à rentrer là. D'accord ? Et si... Dans mon verre, là, j'ai toujours du jus de pomme. Je rappelle, hein, c'est du jus de pomme. C'est pas du cidre, c'est pas du vin blanc, d'accord ? C'est du jus de pomme. Mais effectivement, mon péché est dilué. Le Saint-Esprit est là. Mais est-ce que si je goûte, ça goûte toujours la pomme ? Mon péché est toujours là. Et donc là, le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est faire table rase de votre temple. Ce que le Saint-Esprit veut, c'est que votre péché puisse disparaître complètement. Pour qu'arrive un moment où quand je goûte, je vais goûter le Saint-Esprit, pas l'eau. Pas la pomme, pardon. On est d'accord avec ça ? C'est ça que Dieu veut aujourd'hui. Et lorsque Dieu dit qu'on est des voleurs dans le temple, c'est parce que, pour certains, il y reste du péché dans votre cœur. Et que vous avez pris goût à votre péché, et que vous habitez avec, vous vivez avec, vous le goûtez, vous le buvez. Il goûte bon dans votre bouche. Sauf que pour Dieu, ça ne goûte pas bon. D'accord ? Et donc, c'est important de pouvoir avoir un cœur qui est complètement débordant du Saint-Esprit. Parce que là, je peux essayer de rajouter du jus de pomme. Il y en a qui va rentrer. Mais si, en parallèle, j'ai le Saint-Esprit qui continue à se déverser dans mon cœur, forcément, mon péché n'aura plus de place. On est d'accord avec ça ? Et maintenant, un pigeon ! Non. J'essaierai qu'un lapin. La partie sympa maintenant de cette prédication, c'est qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire de ce que je viens de dire? Est-ce que pour toi, c'est... J'ai eu mon culte ce matin, c'était bien, il y a eu Fred qui a parlé de pigeons, etc. C'était bien. Ou est-ce que, au contraire, Fred a réveillé un truc dans ton cœur qui fait que, waouh, sa douleur, il me l'a communiqué là. Parce que là, moi, j'ai réellement une douleur. Ça me fait mal de dire ce que je suis en train de dire, parce que ça me fait mal, parce que j'en ai pris pleinement conscience. Que des fois, on prend des choses dans la vie, on a pris l'habitude de vivre avec ça, et que Dieu, lui, veut toute la place. Il veut toute la place dans ta vie. Il veut toute la place dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire qu'il y a une condition. Si tu recherches Dieu et sa justice, c'est quoi la justice de Dieu? Le fait d'être droit devant lui. Si tu recherches sa justice et son royaume, alors toutes choses te seront données par-dessus tout. Ton péché va disparaître. Ton péché va commencer à disparaître. La Bible nous dit que nous devons résister au diable et le diable fuira loin de nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là, il va vous aider à lutter, il va nous aider à lutter. Le but, c'est de résister à notre péché, c'est de pouvoir le vaincre. Qu'un jour, eh bien, tout ce qu'on a en nous puisse dire, ok, ça ne sert à rien que je reste, puisqu'il ne veut plus me pratiquer. Le péché, il va se dire, je n'ai pas dit le gros mot de démon. D'accord? Allez, la suite. Ça, c'est une très belle promesse. Josué, c'est un beau livre, Josué. Que ce livre de la loi, parle de la... à l'époque, ce n'était pas la Bible, mais c'était le Pentateuque, c'était les cinq premiers livres avec lesquels les Juifs vivent encore aujourd'hui, le Pentateuque, d'accord? Donc il n'y avait pas de Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi ou de ta bouche. Ah, Dieu m'appelle. Non? C'est Jésus? Non? Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Je la refais. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'aime bien dire de ta bouche parce que dans une autre version, c'est mis de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Ce n'est pas marqué que sur une petite partie de ce qui est écrit, d'accord ? À tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Aujourd'hui, on a des circonstances qui sont là et on a peur du Covid. Il y a des gens qui ne sont pas venus au culte pendant des semaines parce qu'ils avaient peur du Covid. Allez. Soyons attentifs. Dieu nous a des promesses comme ça, il y en a plein à la Bible. Dieu nous dit tout le temps, que ce livre de la loi, que cette Bible ne s'éloigne pas de ton cœur, ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ça puisse vraiment rentrer dans le cœur, cerveau, bouche. Le cœur, vous savez, circuit cœur, cerveau, bouche. Cœur, cerveau, bouche. C'est-à-dire que ce que tu as dans ton cœur, forcément, vient dans tes pensées. Ce qu'il y a dans tes pensées passe par ta bouche. Et que la Bible nous demande de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Mais pour pouvoir avoir des choses bonnes qui sortent de nos bouches, il faut que notre cœur soit vraiment le temple du Saint-Esprit. Et que dans notre cœur, il y ait des choses qui soient de Dieu et que de Dieu. Attention, je ne dis pas qu'on doit quitter ce monde, on ne va pas se faire des monastères. J'ai déjà la tonsure, ça ne sert à rien. J'attends que vous compreniez la blague là. Mais donc, on n'est pas là pour s'enfermer dans un monastère et faire vœux de chasteté, vœux de pauvreté, vœux de silence. Non, Dieu aime que son peuple le loue. Dieu aime que son peuple vienne pour lui donner son argent. Oh, je l'ai dit. Dieu aime que son peuple vienne ici pour s'associer avec tous les chrétiens pour pouvoir le louer. Parce qu'à partir du moment où tu rentres dans des choses qui ne sont pas de lui, qui ne sont pas conformes à sa parole, Dieu dit non, stop. Stop. Ta vie, elle doit être en règle avec ce que je dis moi, pas ce que disent les hommes. On n'est pas là pour suivre des hommes, on est là pour suivre Dieu. Et Dieu dirige des hommes parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des chrétiens qui sont inspirés par Dieu pour pouvoir mener un peuple. Écoutons les ministères, écoutons les prophètes, écoutons ceux qui reçoivent des choses de la part de Dieu. Ce matin, ce qu'a dit Josine, c'était hyper important. C'est exactement la prédication que je suis en train de vous donner. Quand elle m'a donné la chose, elle dit « Amen ». Là, on a chanté dans les chants ce matin, on a parlé du temple. À chaque fois, on a parlé du temple. C'était où? Je vais vous le dire. C'est dans Yahweh, je crois. « L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai, ô mon âme, chante mon âme. » Oui, c'est des commandements qu'on donne à notre vie, ça. « Pas à pas, il me conduit au bord des eaux calmes, je le suis. Ô mon âme, chante mon âme. » Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence tellement de joie. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Sauf s'il y a du Covid. Ouh. Seigneur, on devrait tous être à genoux, là. On ne peut pas chanter des choses comme ça si on ne le pense pas. Pas possible. J'ai toujours dit, hein, vous savez que j'aime, quand je chante un chant, je cœur, cerveau, bouche, cœur, cerveau, bouche, pensez à ça tout le temps, cœur, cerveau, bouche. Donc mon cœur chante, mon cerveau réfléchit, d'accord, et ma bouche le dit. Et ce matin, quand j'ai chanté les chants, j'ai d'abord réfléchi aux paroles qui étaient données. Des fois, il y a des paroles qui ne sont pas terribles. Je ne dis pas que c'est dans nos chants, mais il y a des paroles qui ne sont pas terribles dans certains chants de ce que l'on chante. Vous savez, j'ai regardé une vidéo cette semaine sur un évangéliste, un jeune évangéliste, qui a fait toute une vidéo sur la musique du monde, et il a cité des cas. Vous savez qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, et je suis le premier à l'écouter, mais maintenant je le sais, je ne vais plus l'écouter, mais Maître Gims, il dit lui-même qu'il a un démon en lui, que c'est son démon qui lui inspire ses chansons. Vous le savez, ça? Et nous, on est là, oui, Maître Gims, il chante, c'est quoi ça, paix comme jamais, machin. Ah, non! La musique et le chant est réservé à Dieu pour la louange. Et c'est pour ça. Allez, je la balance, je suis désolé. Je suis obligé, ça me tient. Ceux qui arrivent en retard, vous êtes des voleurs du temple. Parce que vous n'êtes pas dans la louange, vous devriez être dans la louange. Et vous volez Dieu. Parce que Dieu a réservé un moment de louange où on est avec le corps de Christ. Et qu'on loue tous ensemble pour louer Dieu. Et il y en a qui arrivent à 11h moins le quart, 11h moins 10, coucou! Pendant ce temps-là, tu as un leader qui a réservé un moment, qui a préparé quelque chose, où Dieu l'a inspiré, avec des musiciens qui ont passé du temps dans une répétition. Et toi, tu te dis, bon, de toute façon, il y a le générique avant le culte. Moi, si je suis là pour la prédication, c'est le principal. Non! Non! Oh, je suis dur ce matin, je suis désolé. Hein. Je vous demande pardon. Franchement, si je vous ai fait mal, je vous demande pardon. Si je vous ai fait mal, venez me voir à la fin. Venez me voir en me disant, Fred, tu m'as fait mal. Parce que tu as dit... Alors attention, quand je parle des retards, il y en a qui ont des bonnes excuses pour des retards. Ok ? Je ne vais pas non plus dire que vous devez rouler comme un taré parce que le sonnet de l'arrivée n'a pas sonné. Voilà. Demain, si tu as un train à prendre à la gare, tu seras à l'heure pour prendre ton train. Et si tu n'es pas à l'heure, le train, il se barre, hein, c'est tout, point. Et ben, c'est pareil pour le culte. Si tu as raté un quart d'heure, 20 minutes, tu as raté le meilleur. Parce que peut-être que Dieu avait une parole pour toi juste à ce moment-là, juste au moment-là où tu n'étais pas là. Dieu avait dit, tiens, lui, quand il va être là, je vais lui mettre ça dans son cœur. Oh, il n'est pas là. Bah, tant pis. Donc, si je vous ai fait mal ce matin, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Mais quelque part, je ne devrais pas vous demander pardon parce que c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est la Bible qui te dit ce matin, fais attention à ce que tu fais dans ta vie parce que moi, ton Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois vraiment pour moi et que pour moi, pour personne d'autre. Le moindre petit Dieu qui est dans ta vie est une entrave pour la bonne marche spirituelle que je t'ai réservée. Le moindre petit Dieu, la moindre petite chose que tu fais dans ta vie qui est là, ça m'empêche d'agir. La moindre entrave que tu vas mettre à un autre, à quelqu'un qui veut rentrer dans le ministère, si tu es là pour être une entrave envers lui, tu empêches l'œuvre de Dieu. Tu es un voleur du temple. La moindre chose que tu fais dans le royaume de Dieu, si tu ne le fais pas bien, si tu prends une place qui n'est pas la tienne, dans l'église, si tu prends une place qui n'est pas la tienne, tu es un voleur du temple. parce que tu es en train de prendre la place qu'un autre devrait normalement avoir, parce que Dieu a dit que c'était lui qui devait avoir la place, mais toi tu tiens ta place, parce que tu as ta place. Ouais, je termine avec ça, tiens. Ce que j'ai dans le cœur. Je ne l'ai pas mis dans mon truc, mais je vais vous le donner tout de go. C'est dans les bois. J'arrive. Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. D'autres versions qui disent veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et pour exciter les œuvres bonnes. D'accord ? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Et si je passe directement au verset 29, combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Je vous donne la référence, parce que ce n'est pas moi qui le dis, Hébreux 10, 29. Ce matin, qu'est-ce que tu vas faire de tout ce que je t'ai dit là, ce matin ? Moi, j'ai pris une décision ferme, définitive, et je veux qu'elle soit définitive, et je le dis devant, on est combien ? On est 70 peut-être ce matin ? Avec les, on va compter les enfants, 70. Je vous prends à témoin, je veux absolument voir des grandes choses. Je veux que 2022 ne soit pas une année normale. Je ne veux pas une année normale. Si, et ça, c'est, j'ai déjà dit à plusieurs ici, par exemple, si vous prenez janvier 2021, alors ce n'est pas une année référence 2021, mais si en 2021, tu es là le même qu'en janvier 2022, c'est que tu as raté quelque chose. Parce que Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut t'apporter beaucoup plus que ça. Dieu, il a quelque chose pour toi. Et si tu es le même, sur un an de temps, tu es passé à côté de quelque chose. Et donc Dieu, vraiment, soyons attentifs à ce que Dieu veut dans nos vies. Que nous puissions avoir une écoute attentive. Et le matin, je peux vous assurer que quand je passe mon temps avec Dieu, Dieu me parle. Alors j'aimerais, oui, j'aimerais qu'il soit là devant moi physiquement, qu'il me parle audiblement. Oui, j'aimerais. Mais voilà, il me parle différemment. Comme ce matin où, voilà, ma prédication, j'ai entendu la même prédication par Yvan Castanou sur EMCI TV. Je ne regarde jamais EMCI, enfin, je regarde rarement EMCI TV. Manque de peau. La seule fois où je l'écoute, là, un dimanche matin, c'est lui, il me fait ma prédication que je donne une heure après. Et est-ce que ça, c'est pas Dieu qui parle ? Vous savez, il y a une vidéo sur YouTube avec un évangéliste qui s'appelle Cospiel qui donne les 17 façons dont Dieu peut vous parler. 17 façons. Regardez cette vidéo, elle est hyper pertinente. Dieu peut parler de 17 façons différentes. Lui, il a listé les 17 façons. Donc soyons attentifs à ce que Dieu veut pour nous, parce que Dieu... ouvre ton cœur, vas-y, et je rentre. Alors je vais faire un truc que je ne fais jamais, mais voilà, je suis obligé de le faire. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. On a besoin de toi ce matin, Jésus. Ce matin, là. Seigneur, parle à nos cœurs. Ce matin, je voudrais que vous m'accompagniez, ceux qui ont le désir de le faire, qu'on puisse tous être à genoux, que l'Église puisse être à genoux devant Dieu.